à toutes et à tous les amis, bienvenue dans le bistrot du vélo. Je vais servir le premier verre d'eau en attendant que notre invité arrive. La bouteille, elle est là. Un verre d'eau que je vais partager dans quelques instants avec un savoyard. Un savoyard avec qui donc on va parler vélo. Mais au menu ce soir, pas de raclette ni de fondue, mais un plat et un menu italien. Regardez justement avec en entrée l'antipasti da tappa quattro, la tagliatella in salsa rossa pour la deuxième partie du repas. Et puis on terminera avec une sublime panna cotta DHG2R Citroën. Et ce menu, eh bien, on va le discuter avec Aurélien Paré Peintre. Salut Aurélien, comment ça va pendant cette journée de repos qui doit faire du bien?
Salut, bonjour à tous. Ouais, forcément, aujourd'hui, ça va. C'est pas la journée la plus dure du Giro pour nous. Une première journée de repos qui fait du bien, parce que pour aller jusqu'à la première journée de repos, c'est vraiment le temps le plus long. Il y a 9 étapes d'affilée. Donc, forcément, je pense qu'hier, on avait tout ça d'être à aujourd'hui et ça fait du bien. Mais la journée est déjà finie, c'est passé vite.
Elle a ressemblé à quoi la journée de repos d'Aurélien Paré Peintre aujourd'hui?
Ah, pour nous, pour moi, c'est on se réveille un petit peu plus tard, pas de stress, pas de réveil. On déjeune à notre guise, à notre convenance, à l'heure qu'on veut. Et puis ensuite, on fait quand même une petite sortie de vélo tous ensemble. On a fait une cinquantaine de kilomètres autour de. On n'est pas loin de Modène, on est passé devant l'usine Ferrari à Maranello, par exemple. Et ensuite, c'est beaucoup de récupération l'après-midi, quelques soins, la sieste, les massages, voilà. Tout ce qu'on fait les autres jours, mais on a beaucoup plus de temps, beaucoup moins de stress. Donc voilà, un peu de sollicitations médias aussi forcément après la semaine dernière, mais c'est toujours agréable.
Et on te remercie d'être là. D'ailleurs, pendant la petite sortie décontraction ou récupération de ce matin, c'est juste allure tranquille, récupération, ou il y a aussi des petits sprints, des petits efforts particuliers?
Non, c'est plutôt allure récupération, tranquille. Bon, moi, j'ai vu que l'étape de demain, c'était pas non plus une étape hyper, hyper difficile. Voilà, le prochain jour de repos sera peut-être un peu différent avec une grosse étape de montagne le lendemain. Mais voilà, aujourd'hui, c'était vraiment tranquillement tourner les jambes, éliminer les toxines. Surtout que voilà, hier, même si c'était un chrono, c'est une journée qui est. C'est pas de la une journée de récup, mais c'est quand même beaucoup plus simple que quand on fait 5 heures de sel, enfin, de mon point de vue en tout cas.
Et on accueille évidemment les réactions, hein. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à poser vos questions à Aurélien Paré Peintre qui répondra. La petite fiche de Aurélien Paré Peintre, on va voir le CV. Né le 27 février 1996 à Annemasse, 27 ans. Une carrière d'abord qui a commencé avec le Chambéry Cyclisme Formation avant d'intégrer l'équipe professionnelle AG2R Citroën, que tu es toujours dans cette fabuleuse équipe française. Le palmarès, intéressant, et puis il s'est rempli il y a quelques jours avec une victoire sur le Tour d'Italie. Donc en début de semaine, et puis il y avait également une belle victoire d'étape sur le Tour des Alpes-Maritimes, ça c'était en début de saison. Et puis la première victoire chez les pros, c'était en 2021 lors du Grand Prix La Marseillaise. Parmi ces victoires, Aurélien, laquelle est la plus belle pour toi?
Ah, c'est pas trop compliqué, hein, forcément, l'étape Giro la semaine dernière, c'est une gagne sur une course World Tour, sur une course de 3 semaines. Donc, forcément, incontestablement, c'est la plus belle. Hein, voilà, je suis vraiment super content d'avoir réussi à gagner cette étape, même si toutes les victoires sont belles chez les pros, quand on sait combien c'est difficile d'aller les chercher. Donc, voilà, c'est sûr que celle du Giro sur un grand tour, une étape de moyenne montagne, un petit arrivée au sommet, voilà, pour moi, c'était vraiment la journée, la course parfaite, quoi.
On est très content, hein, de cette victoire du côté de nos téléspectateurs. Bravo Aurélien, on te félicite. Et puis déjà des questions. Le maillot de meilleur grimpeur va-t-il devenir un objectif dans ce Giro 2023? Question de Cyclisme Attitude.
Pour l'instant, non, pas forcément. Après, j'ai vu quand même qu'avec le barème du Giro, il peut très vite y avoir des revirements de situation. Je pense que voilà, l'étape de vendredi avec les deux ou trois color catégories avant l'arrivée, si c'est un mec qui est dans l'échappée qui passe au sommet des trois, bon, faut le faire, hein, mais ça peut très vite aller dans un sens. Parce que j'ai vu ça avec le barème l'autre jour, quand Thibaut a perdu le maillot, en fait, le coureur des holos a pris énormément de points en une journée. Donc,
Ouais, Bice.
pourtant pas un objectif, mais après, si je me reprojette dans des échappées et que je commence à récolter de nouveau quelques points, on verra. Mais actuellement, non, non, c'est pas la priorité.
On va revenir sur cette fabuleuse victoire d'étape. C'était lors de la quatrième étape de ce Giro d'Italia. D'abord, Aurélien, les jambes, elles étaient là, même avant cette étape. J'imagine que tu étais dans un jour parfait au niveau de la condition.
Ouais, c'est sûr, hein, je pense que j'avais des super sensations. En fait, déjà, la principale difficulté de cette étape, c'était avec les déclarations un peu au préalable de Remco, de son équipe, qui allait laisser filer le maillot. C'est-à-dire que le matin, dans le bus, sur la ligne de départ, sur les 180-200 coureurs qu'on est au départ, il y en avait 140 qui avaient envie d'être dans l'échappée. En enlevant 20 coureurs du général et 20 sprinteurs, il restait 140 mecs qui voulaient être dans la bonne échappée, donc c'était forcément un petit peu. Voilà, fallait avoir des bonnes jambes, faut toujours un petit peu de réussite et un peu de chance. Et voilà, c'était vraiment la partie la plus dure de la journée pour moi, arriver à prendre l'échappée.
Ça a bataillé pendant 70 km, hein, c'est ça. Tu as tenté plusieurs fois. Comment ça s'est fait exactement ce coup avec un autre Français, Warren Barguil notamment? Et on voit justement cette échappée.
Ouais, c'est ça, un début de course ouais, pendant 1 heure et demie, montée, descente, route, humide. Et puis finalement, paradoxalement, c'est que ça s'est fait un petit peu dans la descente aussi, même s'il fallait avoir la jambe pour être bien placé au sommet du col. Mais voilà, dans la descente, le coureur des holos qui était dans l'échappée albanaisé, j'ai appris qu'il était du coin et il était devant, il descendait vraiment vite. On avait du mal à le suivre. C'est comme ça que ça a fait des petites cassures. Et finalement, en bas, on s'est tout de suite retrouvé à. Ensemble, le groupe s'est constitué et voilà, ça s'est fait un petit peu dans la descente, même si ça avait déjà fait un bel écrémage dans le col où c'était déjà un petit peu bim bam boum depuis 1 heure et demie. Donc forcément, fallait la jambe, mais fallait aussi être un assez bon pilote ce jour-là pour être devant. Ouais.
Quand tu vois à ce moment-là tes compagnons d'échappée, on va les rappeler, hein, Andreas Leknessund, Nicola Conti, Vincenzo Albanese, Warren Barguil, Tom Skuins et Emmanuel Gebrey-Zeiber, tu te dis quoi? Tu te dis ça a une chance d'aller au bout et je vais peut-être pouvoir faire quelque chose?
Ouais, quand l'échappée sort, je me dis il y a une grande chance qu'il y ait eu loup parce que c'est vraiment prévu. Après, je me dis par contre une première chose, c'est que pour le maillot rose, ça va être mort. Je vois Leknessund et je me dis bon, de là à le lâcher et lui reprendre 30 secondes dans la dernière montée. Donc je me dis bon, le maillot rose, ça va être mort. Et finalement, c'est peut-être ce qui m'a aidé à me concentrer vraiment sur la victoire d'étape en me disant que bon, le maillot rose, on oublie. Et voilà, j'aurais été peut-être un petit peu plus proche de lui. J'aurais cherché un petit peu les deux et j'aurais peut-être perdu d'énergie à vouloir le maillot rose. Donc forcément, ça n'aurait pas été top. Et là, c'était la meilleure solution. Je dis, bon, maintenant, on joue que la victoire d'étape et je me concentre là-dessus, quoi.
Quand l'écart stagne à 3 minutes pendant un certain temps, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, finalement, ils vont pas nous laisser Remco, il a bluffé, il veut pas laisser son maillot rose, ou tu es encore confiant dans cette échappée?
Ouais, quand on a plus 3 minutes, à un moment, je me dis, bon, ils nous ont peut-être un petit peu menti. Et puis, non, mais je pense que surtout nous aussi, avec le gros départ, on accusait un petit peu le coup de vent. Et puis après, on va dire qu'on a remis en route un bon coup dans la vallée. Mais même avec la dernière ascension qui était assez courte, je me suis dit, voilà, si en bas, on a 1 minute 30, 2 minutes à 10-12 km de l'arrivée, je me disais que ça pouvait le faire encore largement pour la victoire d'étape. Nous, on allait quand même se livrer la guerre devant avec des bons coureurs, donc on n'allait pas perdre tant de temps que ça sur le peloton. Mais forcément, j'ai eu un petit moment quand même. Je me suis dit, tous ces efforts, finalement, c'était un peu du bluff de Remco. Et puis finalement, ils nous ont laissé refiler, quoi.
Et puis dans la fin de cette étape, en haut du Colle Molella, la dernière difficulté de la journée, il y a Andreas Leknessund, hein, qui va prendre une centaine de mètres en attaquant. Tu le suis dans un premier temps, puis il arrive à te décomprimer, décramponner, pardon. Mais j'ai l'impression que tu t'es jamais affolé. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, hein?
Ouais, c'est vrai qu'il m'attaquait plus d'une fois, et il y a un moment j'étais un peu à la limite, mais je pense que contrairement à lui, quand il a voulu me décrocher, lui il a vraiment passé la limite. J'ai vu qu'il était quand même un petit peu l'expression un petit peu à l'arrache en danseuse, avec un braquet énorme. Je pense qu'il s'est un petit peu fait sauter les jambes. Et finalement, je ne me suis pas affolé en restant assis, en cadence. Et voilà, je savais que le dernier kilomètre était un petit peu moins dur, et que si j'arrivais à remettre du braquet, j'allais pouvoir revenir sur lui. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et finalement, après, la tendance s'est inversée un petit peu psychologiquement quand on est sur la partie un peu moins dure. Lui se retournait beaucoup, moi j'étais en train de revenir, perdait confiance, et moi je reprenais confiance. Donc je l'ai assez vite rattrapé. Mais c'est vrai que j'ai pas paniqué, mais j'ai un petit peu peur quand il m'a distancé. Je me suis dit, ah, tu peux pas faire deuxième aujourd'hui, là, c'est trop bête.
Quand tu le rattrapes, Aurélien, dis-moi la collaboration dans le final, ça n'a pas été parfait. On a vu des mots qui se sont échangés, ça commençait à râler entre vous deux, à savoir, bon, passe un peu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous êtes dit là?
Ouais. Après, une fois que je reviens sur lui, hein, je peux pas forcément en être sûr à 100%, mais je me dis, c'est pratiquement sûr que je vais gagner. Je sais un petit peu mes capacités au sprint. Je voyais qu'il était beaucoup moins explosif. Donc je me dis, bon, s'il me lâche pas maintenant, et là il reste 3 bornes, dont 1 km en descente, pour moi c'était pratiquement sûr d'être bon. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai essayé un peu de l'inciter à passer. Et puis finalement, en sachant que j'allais pouvoir le battre, j'ai essayé on va dire, d'arrondir un peu les angles. J'ai passé aussi quelques relais avec lui. Et puis finalement, je pense que lui, oui, il a été un peu gourmand sur le début à vouloir peut-être avoir les deux. Et puis finalement, là, je pense que son directeur sportif, voyant le peloton qui revenait finalement assez vite, à 1,5 km, il lui a dit, bon, bah, on va peut-être tout perdre. Donc finalement, roule un petit peu plus, et puis du coup ça a été à mon avantage. Mais forcément, c'était dans mon devoir de l'inciter à rouler. Il allait quand même prendre le maillot de leader de la course. Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques petits échanges dans les derniers kilomètres.
Question dans le chat justement sur notre live. Quel braquet utilises-tu pour monter l'école?
Alors là, la plupart des cols, là, quand ça reste des pourcentages assez raisonnables, on a un plateau de 39 à l'avant. Et puis derrière, on utilise régulièrement des cassettes avec la grande couronne en 32. Ça permet d'avoir un petit peu de garder un peu de cadence dans les pourcentages. Et tant que c'est des cols raisonnables, normalement, 39-32, on passe partout.
Il n'y a pas que toi hein, qui a pris plaisir à t'imposer. Tes coéquipiers ont aussi célébré cette victoire et ton frère, également ton petit frère Valentin. Je suppose que tu as vu cette fameuse vidéo où on retrouve tes trois coéquipiers qui sont encore dans la dernière ascension et qui célèbrent, puisqu'ils voient un petit peu sur la télé de ton directeur sportif, eh bien, tu es en train de remporter cette étape. Tu as vu cette vidéo, j'imagine que ça a dû te faire plaisir.
Ouais, bah ouais, je l'ai vu. Non, c'est sûr que ça fait super plaisir. Quand on démarre une course de 3 semaines, on sait qu'on va vivre des moments de galère, mais on espère aussi qu'on va vivre des moments comme ça. Et c'est ce qu'on s'était dit le vendredi, la veille du départ. Donc voilà, on était super, super tous fiers, heureux que ça arrive aussitôt dans le Giro. C'est quand même une libération. Chaque équipe vient pour ramener une victoire d'étape sur les grands tours. Donc pour nous, c'était acquis, et forcément de partager ça avec les jeunes de l'équipe, pour qui la plupart c'est leur premier grand tour, ou comme mon petit frère, c'était un super moment. Ouais,
Justement,
après,
ton petit frère est...
y a des mecs qui ont déjà vu plus d'une victoire.
Ah, il nous montrait justement son compagnon de chambre juste derrière. C'était Mika Scherl, j'ai reconnu le rire de Mika Scherl, c'est ça?
Exactement, ouais.
Ouais, on l'a pas vu, tu peux nous le remontrer si on le voit?
Bonjour à tous.
Salut Mickaël, merci. Et bravo à vous les gars, bravo. Vous nous avez fait vibrer et j'espère que vous nous ferez vibrer encore une fois dans la deuxième et troisième semaine du Giro. Valentin, ton petit frère, il a une question. Je vais demander à Valentin qui est à côté de toi aussi, du côté de la formation AG2R Citroën, de passer le portable. Voilà, et on écoute la question du petit frère, Valentin Paré-Peintre.
Salut à tous, du coup j'ai une question pour toi Aurel. Je voulais savoir si en tant que bon savoyard, tu étais plutôt fondue ou raclette.
Alors,
Alors ça va faire c'est un gros débat. Parce qu'en fait, je déteste le fromage cru. Donc je.
d'accord.
Pas du tout de fromage cru, mais j'aime la raclette, j'aime la tartiflette et j'aime la fondue. Voilà, c'est un peu bizarre, mais je dirais que je suis plutôt tartiflette, ouais. Je trouve que c'est. Bon, les deux sont très bons, mais j'aime bien l'aspect tartiflette, l'aspect raclette pour le moment convivial. On passe du temps à manger, surtout avec les appareils traditionnels qu'on a chez nous. On racle vraiment. Toute la demi-meule, donc ça, voilà, ça. On va attendre chacun son tour. Il y a l'appareil qui chauffe au milieu de la table qui te fait un petit peu transpirer, donc c'est convivial, j'aime bien.
Et vous n'avez pas amené l'appareil pour vous faire une petite raclette, j'imagine, pendant le Giro. Ça ne se fait pas, j'imagine.
Non, mais on peut faire un petit pari que si on gagne l'étape de Crans-Montana, on fait une raclette à Crans-Montana le vendredi soir.
Eh
On se.
bah, ben, on te souhaite de remporter ou l'un de tes coéquipiers, Mika Scherel aussi, s'il nous écoute, hein, pour donner aux copains la raclette, ça serait pas mal. On a des questions sur le chat. On nous demande si tu souhaites, c'est Nathalie qui nous demande ça, est-ce que tu penses désormais à rentrer dans le club des coureurs, le fameux club des coureurs à gagner sur les trois grands tours. Le Tour d'Italie, c'est fait. Il reste le Tour de France et la Vuelta. Est-ce que tu veux faire partie de ce club?
Ouais, forcément, tous les coureurs veulent faire partie de ce club. Voilà, j'ai fait un tiers de la mission. Hein. Moi, je pense que sur n'importe quel grand tour, la difficulté à remporter une étape est à peu près la même. Hein. Même si on dit souvent qu'il y a un petit peu plus d'opportunités pour les échapper, peut-être sur une Vuelta ou sur un Giro, mais. Maintenant, toutes les étapes de grand tour sont vraiment disputées, donc évidemment que j'aimerais bien le faire et remporter une étape sur le tour et la Vuelta par la suite, ouais.
Le questionnaire Bistro Vélo, le principe est simple, les questions rapides, les réponses aussi. On commence avec la première question, Aurélien. La course que tu rêves de gagner?
C'est vrai que j'ai pas mal d'attachement pour la classique Liège-Bastogne-Liège. C'est toujours une course qui m'a assez fasciné depuis que je suis petit. Que ce soit un. Ça va dire que c'est peut-être le monument qui me correspond le mieux aussi, même si c'est aussi le Tour de Lombardie. Donc, ouais, on va dire Liège-Bastogne-Liège pour le monument, la beauté de la course.
Ton meilleur souvenir dans le vélo?
Ah, bon, il y en a beaucoup, hein. Forcément, la semaine dernière, c'était.
C'est un beau souvenir.
Hein, c'est ma plus belle victoire, donc ouais, il y a ça. Après, il y a beaucoup de très très bons souvenirs à tous mes débuts, les premières courses qui m'ont un petit peu fait connaître. Quand j'ai gagné notamment en junior, ça ressort souvent, mais la Classique des Alpes devant ma famille, ça c'était un peu aussi ma première grosse performance. Donc voilà.
Ton pire souvenir dans le vélo.
J'ai de la chance, j'ai jamais eu énormément de grosses chutes. Après, c'est vrai que l'an passé, mon abandon pour le Covid au tour, c'était un petit peu difficile à gérer quand tu prépares pendant plusieurs mois un objectif et voilà, de devoir quitter la course comme ça, c'était ouais, une semaine de la fin, c'était vraiment pas quelque chose de pas agréable et c'est vrai que je l'ai assez mal vécu. Donc ça m'a un peu suivi d'ailleurs jusqu'à la fin de saison. Et malheureusement, c'est pas contre le Tour, mais cet épisode Covid, dès que je suis parti dimanche soir, j'ai dit que l'année prochaine, j'allais venir au Giro et que le Tour, on verra après.
L'équipe qui te faisait rêver quand tu étais petit?
Moi, j'étais assez fan quand j'étais petit de Tom Boonen. Donc voilà, elle existe encore. C'était un peu la Quick Step à l'époque. Bien.
Si tu avais le pouvoir de retirer, changer ou améliorer une règle dans le cyclisme, ce serait quoi?
Alors, ça serait qu'on... Que le départ soit toujours dans la ville où on dort et qu'à l'arrivée soit toujours dans la ville où on dort le soir. Comme ça, on aurait zéro transfert, on serait toujours, on pourrait aller au départ en vélo et à l'arrivée à l'hôtel directement. Ça serait une belle règle, mais le problème, c'est que déjà, que des fois, on ne fait pas vraiment le tour d'Italie ou le tour de la Tour de France, donc ça serait compliqué, mais voilà, ça serait quelque chose d'assez intéressant pour nous, dans notre confort, même si voilà, les transferts, on a quand même de très bonnes conditions maintenant avec nos bus, nos assistants, tout ça, mais ce
Mais
serait
ça
quelque
reste,
chose.
c'est une des, ouais, les transferts pour toi, c'est une des contraintes de ton métier, de ta profession.
C'est vrai qu'au tout début, on le prend, quand on arrive de chez les catégories jeunes, on le prend un petit peu comme une contrainte. Et puis petit à petit, ça rentre dans notre quotidien. Enfin, ça fait partie du jeu. Et c'est un moment comme un autre après l'étape. Et maintenant, c'est vrai qu'on prend ses transferts pour déjà optimiser la récup. On peut faire déjà des bottes, quelques soins. On a le temps de bien se réalimenter, de bien se réhydrater. Donc. Finalement, à part quand les transferts sont vraiment trop trop longs, on prend ce moment comme un sas de décompression et déjà on est déjà dans un processus de récupération. Donc ça nous, bien sûr, des fois c'est beaucoup trop long, mais ça nous dérange pas. Je pense que maintenant on est assez habitué à ça.
Une autre question de l'un de tes coéquipiers, il n'est pas présent lui sur le Tour d'Italie, c'est Benoît Cosnefroy qui nous a fait le plaisir de venir sur le plateau des Rois de la Pédale il y a quelques jours. Il a laissé un message et une question pour toi, on écoute.
La victoire. Enfin, un petit message d'encouragement à toi, Aurèle, pour la deuxième semaine. Régale-nous, comme tu as fait en première semaine avec ta victoire. Cherche le meilleur, entraîne l'équipe derrière toi avec les jeunes là, et partez dans les échappées. Voilà, c'est top. Et on est tous derrière vous. Et pour la petite question, je te demande si tu comptes faire podium un de ces jours ou peut-être gagner le four. Mais bon, ça, je sais pas, chaque année,
Ouais, on a
tu
la
coinces un peu en
question, on
fin de
n'a pas
saison
forcément
au bon
la
moment, donc c'est
référence,
pas top.
mais tu vas nous dire la réponse et puis tu vas peut-être nous expliquer.
Alors ouais, c'est vrai qu'on a pris l'habitude avec des bandes de copains qu'on a sur le bassin chambérien. Quand on a fait nos études avec Benoît, on a rencontré pas mal de sportifs de haut niveau parce qu'on était dans une école avec des horaires aménagés pour notre DUT, voilà, le CESNI. Et c'est parti d'un copain qui a ses parents qui habitent à une cinquantaine de kilomètres de Chambéry et qui a un gros four à pain. Et une première année, on a commencé à y aller en vélo et faire des pizzas. Et puis petit à petit, en fait, on fait la course, on part tous ensemble de Chambéry déguisés. Donc maintenant, on est une cinquantaine de copains et on se déplace jusqu'à 10 km de chez lui. Et puis à la fin, on fait toujours une petite course. Et c'est vrai que c'est un sprint en fond plat montant et j'ai un petit peu peiné l'an passé. Mais on le fait au mois de novembre, donc après 4 semaines sans vélo, c'est un petit peu compliqué. Et puis le bassin chambérien, il y a quand même un bon petit vivier de coureurs. Donc.
Ouais, il y a un bon niveau, ouais. Il
Un
paraît.
bon niveau et donc c'est pour ça qu'il me demande mais j'espère qu'un jour en plus on grave le nom de chaque vainqueur un peu comme la coupe sur une grosse pelle à pizza donc j'espère qu'un jour je pourrai mettre mon nom sur la pelle à pizza mais voilà pour l'instant j'ai encore le temps pour me préparer c'est souvent le deuxième ou troisième samedi de novembre donc j'ai un peu de temps pour l'événement du coup qui s'appelle The Four Cycling Club. On a même dû créer maintenant une association avec quelques
Carrément.
sponsors qui financent notre repas. On a été sponsorisé même par des. C'est interdit en France, mais par des boissons alcoolisées.
Donc
Donc,
ça, faut
voilà.
pas le dire. On viendra un jour peut-être téléviser eh bien, The Four, comme vous dites, et on le commentera avec plaisir, avec Guillaume Digradia, avec les Rois de la Pédale avant et après The Four, pourquoi pas. On passe au Bistro News. Le Bistro News avec les dernières infos de l'actualité du vélo. Et évidemment, on l'a appris hier soir. C'est le test positif au Covid-19, malheureusement pour Remco Evenepoel, qui était le leader après la victoire sur son chrono hier. Aurélien, quelle a été ta réaction, toi, quand tu as appris ça? Tu as appris ça hier soir, quand c'est arrivé vers les coups de 22h, ou c'est ce matin, tôt, au réveil?
Ouais, hier soir, sur les réseaux sociaux, comme la plupart d'entre nous. Donc, ouais, bah forcément, c'est toujours surprenant quand le leader de la course quitte la course, hein, forcément. Voilà. Moi, je trouve que c'est dommage. Ces derniers jours, tout était un petit peu en train de se resserrer entre Roglic, Evenepoel, les mecs d'Ineos. Donc, je pense qu'il allait avoir une fin de Giro qui allait être super, on va dire, avec beaucoup d'enjeux, super attractif, je pense, malgré une première semaine un petit peu décriée des fois sur les réseaux. Mais la dernière semaine est tellement dure, je pense qu'on aurait eu un magnifique spectacle avec ces 3-4 garçons. Enfin, voilà, ça n'empêche rien à la beauté de la course qui va continuer, hein, avec un super plateau encore qui est présent. Mais forcément, un petit peu dommage pour le spectacle, parce que c'est à l'instar de ce qui s'est passé à Liège avec la chute de Pogacar. Médiatiquement, pour notre sport, c'était un duel au sommet, et forcément, ça attire un petit peu les yeux du monde entier. Donc, forcément, un petit peu déçu pour le Giro et le spectacle, quoi.
Et après, malheureusement, Clément Russo, Ghana, Uran, donc et Evenepoel. Est-ce que tu sens la crainte, la peur d'attraper ce fichu virus de retour dans le peloton?
Ouais, finalement, moi, j'ai eu la chance d'être positif au Covid juste après Liège, Bastogne-Liège, là, en même temps que Warren, que Anticone a annoncé son retrait du Giro. Finalement, j'avais juste un petit peu le nez qui coule et mal à la gorge, et de les voir sur les réseaux positifs, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un test pour m'amuser. Il était positif, hein, mais voilà, une semaine après, je gagnais l'étape au Giro, donc ça. Maintenant, moi, ça ne me fait pas plus peur que ça. Il faut faire attention. Pour nous, notre politique, c'est aussi tout dépend des symptômes.
Bien
Donc, je ne
sûr.
sais pas dans quel état était Remco. Pour moi, quand j'ai eu mon Covid, c'était simple. Je me mouchais quelques fois dans la journée, la gorge, comme quand on roule là, la semaine dernière où il pleut. Enfin, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, voilà. Après, chaque équipe a des avis différents. Et je pense que tant que ça reste des symptômes bénins ou comme un petit rhume, voilà, il y a pas de risque. Après, forcément, nous, notre position, c'est que si on commence à avoir de la fièvre ou que ça descend un petit peu dans les bronches, enfin, ou un état général un peu trop important, c'est sûr que notre santé est en jeu, et nos médecins prendront jamais le risque de nous faire continuer.
Retour des restrictions, on l'a appris dans le courant de la journée. Retour des restrictions au niveau du Tour d'Italie, port du masque obligatoire, notamment dans la zone du parking des bus, de la zone podium, la zone mixte, la zone ligne d'arrivée ou encore la zone contrôle antidopage. Sans Remco, Evenepoel, ça change la course selon toi, Aurélien?
Je pense, ouais, un petit peu. Maintenant, ceux qui ont les rênes de la course, c'est Ineos. Ineos, ils ont, on va dire, la position dans laquelle ils sont aujourd'hui, ils ont une expérience qui est énorme. Enfin, mener des grands tours, ils l'ont déjà fait beaucoup de fois avec des leaders très solides. Donc, je pense que oui, ils ont la main mise sur la course. Ils vont pas faire d'erreur. Peut-être que Soudal en aurait fait quelques fois pour payer un petit peu une expérience un peu inférieure à Ineos. Voilà, je pense que ça va ouvrir la course, parce que Ineos, on a déjà vu par le passé, que ce soit sur le Tour ou déjà sur le Giro, une étape de montagne, ils peuvent laisser partir 25-30 mecs. Ils n'en ont pas grand-chose à faire quand ils ont leur plan. Donc, va y avoir des choses à faire pour les échapper, c'est sûr, avec Ineos qui est à la barre.
Question de Victor, qui va gagner pour toi, à part toi?
Qui va gagner le Giro? Pour moi, mon principal favori, bon, je peux peut-être me tromper, mais je dirais que pour moi, ça serait Geraint Thomas. Voilà. C'est un coureur qui monte en puissance. Moi, je l'ai côtoyé un petit peu au Tour des Alpes, où il était un petit peu discret. Et là, on voit qu'il est de mieux en mieux. Il a déjà gagné un grand tour, il a beaucoup d'expérience. Donc, je pense que c'est mon favori pour le Giro. Voilà.
Petit
Peut-être
mot,
que je vais me tromper, hein, mais
peut-être, ça c'est le
on
risque du
verra.
pronostic. Warren Barguil a tenu le même
Ah.
pronostic et avant la semaine dernière, avant de savoir que Remco Evenepoel était forfait. Un petit mot sur, parce qu'il n'y a pas que toi qui as gagné cette semaine pour la formation AG2R. Tu as sans doute vu que Greg Van Avermaet s'était imposé hier sur les boucles de l'Aulne à Châteaulin. C'est top pour ton coéquipier belge et sa dernière carrière et sa dernière saison, pardon.
Ouais, forcément, ça fait plaisir pour l'équipe, ça fait super plaisir pour lui parce que ça fait maintenant, c'est sa troisième année dans l'équipe et je sais que c'est quelqu'un qui est très discret et qu'il n'avait pas encore gagné avec le maillot AG2R Citroën, ça le travaillait un petit peu, donc c'est chose faite. Il en a eu conscience que ces dernières années, il a eu un peu plus de mal à avoir un rendement et un niveau qu'il aurait aimé. Mais c'est vrai que depuis 2 ans et demi, 3 ans, moi, j'ai été bluffé par tous les stages hivernaux. Il a la même motivation, super sérieux, beaucoup de travail. Donc voilà, je suis super content pour lui qu'il décroche enfin cette victoire en Coupe de France. Mais c'est toujours une belle course à gagner et je pense que ça va lui donner un peu de baume au cœur et vraiment le remotiver pour le reste de la saison, pour sa dernière année, voilà, après des classiques où il avait dit ouvertement qu'il était très déçu. Donc je pense que ça va lui remonter le moral et peut-être qu'aussi d'avoir annoncé sa fin de carrière, ça l'a un petit peu libéré et profite de chaque instant et peut-être qu'il va nous gagner encore 3 à 4 courses d'ici la fin de saison et j'espère pour lui.
Lui aussi, il a de longues années durant sa carrière été coureur au sein de cette formation AG2R Citroën. Eh bien, c'est ton partenaire de chambre actuellement, Michael Scherel, qui t'a laissé lui aussi un petit message, une petite question qu'on va justement écouter.
Salut Aurèle, bon, il y a un petit truc qui me chagrine. Comptes-tu faire des cours de lambada avant Madagascar? Parce qu'il faut que je m'organise, donc dis-le-moi, préviens-moi, c'est bon. Merci.
Alors,
Alors ça, c'est pareil, il faut mettre dans le contexte. C'est que moi, je fais très souvent des paris sur des résultats que j'offre des choses avec des collègues. Donc j'ai fait des paris un petit peu fous hein, que je savais qu'elle n'allait pas se réaliser. Je crois que j'ai déjà parié des vacances, je ne sais plus à quel endroit, pour le top 3 d'une étape, top 3 du général du tour. J'ai parié un voyage aussi avec Anthony Julien si je gagnais l'étape du tour. Ça, c'était il y a 5-6 ans, ça me paraissait très loin. Et il y a 3-4 semaines, quand on a fait le stage à l'Etna, donc j'étais avec Mika, mon entraîneur Alexandre Abel et Alexandre Lecoq, qui est un assistant aussi de longue date dans l'équipe, qui adore les îles, Madagascar. Et c'est vrai qu'au massage, on lui mettait souvent des musiques des îles. Et bah, tu sais quoi, Alex, si je gagne l'étape au Giro, bah, on part tous à Madagascar. Dit en rigolant. Enfin, non, je ne l'ai pas dit en grand, je lui ai dit sérieusement. Et c'était pas. J'avais un espoir que ça puisse arriver, mais je n'étais pas forcément serein. Donc voilà, et on va devoir prendre des cours de lambada avant d'aller. C'est pour ça le contexte de la danse et de l'île.
Parce que tu vas tenir parole en plus.
Ouais, bah c'est sûr qu'on va y aller. Hein. Il a pas oublié, Alexandre. Il m'a appelé le soir après l'étape. Moi, j'étais pas encore au bus, qu'il m'a dit
Il avait déjà pris les
encore
billets d'avion.
pas. Voilà, donc non, on va essayer de faire ça. Ça serait un, on va dire un souvenir et ça marquerait un petit peu l'histoire. Et puis même pour moi, bah, l'investissement aussi du staff, quand on a fait ces 2 semaines de stage, ça serait un joli clin d'œil.
Allez, parlons de la suite du Giro à présent. Comment tout d'abord tu as terminé, toi, cette troisième semaine après ce contre-la-montre dans des conditions difficiles?
C'était la première semaine, on a terminé la
J'ai
première.
dit quoi?
Troisième.
La troisième?
Un
Non, c'est un petit peu trop tôt. Je
peu
m'emballe.
tôt.
La première.
Non, non, la première. Bah, c'est vrai que moi, j'ai passé une bonne semaine. Après la victoire, on va dire que j'ai eu 2 3 jours un petit peu compliqués, je sais pas, un petit peu avec les émotions de tête. Mais c'est vrai que là, sur la fin de semaine, ça allait mieux. Entre le chrono d'hier, le jour de repos aujourd'hui, je pense que j'ai bien récupéré. Ensuite, voilà, on a une deuxième semaine. Sur le papier, qui est pas non plus très très exigeante. Il y a un grand rendez-vous pour les grimpeurs vendredi, une belle étape tracée un peu sur des routes de Lombardie dimanche, là autour de Bergame, qui va être intéressante. Et ensuite, on a les 3 prochains jours qui vont être entre sprint et baroudeur. Donc, pour moi, les 3 prochains jours vont être un petit peu tranquilles. Donc, cette deuxième semaine, elle est, on va dire, articulée sur 3 premières journées un petit peu plus cool, même si. La météo devrait tendre un petit peu tout ça et les 3 derniers jours un petit peu plus exigeants avant, forcément, comme tout le monde le sait, l'énorme morceau de la 3e semaine.
Tes objectifs, c'est quoi? Et ça revient pas mal hein, dans le chat d'ailleurs, dans les questions. Désormais, c'est le général. D'ailleurs, avec le forfait de Remco Evenepoel, finalement, tu es à 24 secondes du top 10. Est-ce que c'est l'objectif?
Ouais, c'est ça, j'avais annoncé, on va dire, dès cet hiver, comme on sait, c'était de me rapprocher du top 10 sur un grand tour. Après, voilà, il y a une belle startiste qui s'est constituée petit à petit sur ce Giro, mais j'affirme toujours que j'ai envie d'essayer d'arriver aux portes du top 10 actuellement. J'ai bien conscience, évidemment, qu'on n'a pas encore fait non plus de grosses étapes de montagne. Quand je regarde les 13 noms qui sont devant moi, j'ai bien conscience qu'il n'y en a pas un que je vais doubler en claquant des doigts non plus. Donc, il va falloir s'accrocher les 2 prochaines semaines. Et je m'étais dit, avec l'équipe, pas de regret. Chaque jour, on va courir pour faire la meilleure étape, le meilleur temps possible. Et puis, on verra ce que ça donnera à Rome. Si c'est 12e, si c'est 12e, c'est 12e. Si c'est 8e, c'est 8e. Mais pour moi, du moment que tous les jours, je donne le meilleur, l'équipe donne le meilleur et qu'on fait pas d'erreur, j'aurais pas trop de regrets, surtout que voilà, il y a aussi cette victoire d'étape qui est déjà en poche. Donc on verra aussi les options après vendredi, la première grosse étape de montagne. Si je vois que je joue vraiment devant, je vais continuer à m'entêter un petit peu dans le général. Mais si je vois que je suis un petit peu en dessous, on va se relancer dans les échappées pour se remettre en position de gagner sur la 3e semaine. Parler un petit peu au début du maillot de la montagne, qui est pour l'instant pas du tout un objectif, mais on peut voir pourquoi pas dans la dernière semaine. Enfin, il y a encore plein de belles choses à faire.
On va regarder le programme de la semaine sur Eurosport. On continue avec le Giro, évidemment, avec les rois de la pédale avant et après chaque étape à suivre encore pendant 2 semaines. Il y aura aussi les 4 jours de Dunkerque à suivre dès mardi. Le circuit de Wallonie, ça c'est jeudi avec le début du Tour de Burgos. Et puis ce week-end, on aura la Vlaanderen classique et l'Antwerp-Port épique. Donc un joli programme, encore du vélo cette semaine sur les antennes d'Eurosport. D'ailleurs, après le Giro, Aurélien, on diffuse aussi le Tour de France sur Eurosport. Est-ce que tu doubles Giro Tour de France ou tu sais pas
Alors,
encore?
initialement, c'est prévu à mon programme que je cours qu'au mois de juin, je fasse rien à part le championnat de France, et c'est prévu que je cours le tour dans la foulée. C'est d'accord aussi avec l'équipe de m'avoir laissé on va dire, dans ma quête du Giro, et elle souhaite aussi que je participe au tour. Finalement, c'est un événement qui est hyper important pour nos deux sponsors, AG2R et Citroën. Donc forcément, ils souhaitent que je sois là au mois de juillet. Pour l'instant, c'est prévu. Je suppose et je suis sûr qu'on prendra vraiment la décision après mon Giro. Mais pour l'instant, moi, c'est sûr que forcément, je commence aussi à avoir un petit peu envie d'y aller. Cette victoire m'a prouvé que je pouvais gagner sur un grand tour. Donc forcément, j'ai aussi envie de me retrouver sur le tour. Et puis, j'avais décidé que je faisais le Giro avant la présentation du tour. J'ai pas changé d'avis, mais le parcours du tour est quand même très très proche de la maison pendant 10-12 jours. Donc ça me donne quand même beaucoup d'envie.
On prend la dernière question, celle de Soft Xader. As-tu des ambitions pour le championnat de France qui s'annonce difficile?
Forcément, le championnat de France, quand on prend le départ, c'est une course différente. Il y a un maillot au bout. Voilà, personnellement, j'attends de voir un petit peu le parcours. Je sais que ça va être dur, c'est toujours des courses usantes. Principal objectif, ça sera aussi comme chaque année. C'est un maillot qu'on n'a, je crois, peut-être jamais ramené avec, je suis pas sûr, hein, mais peut-être jamais ramené avec l'équipe AG2R. Donc, ça sera un objectif de le ramener avec l'équipe. Voilà, un parcours. Je crois puncher, un petit peu typé flandrien, mais voilà, ça va être une course super usante, super dure. J'ai jamais fait les 4 jours de Dunkerque, mais tout le monde me dit que le circuit est déjà dur quand on le fait que quelques fois en fin de course. Alors là, sur 260 km, j'ose pas imaginer.
Et on prend la dernière, toute dernière question, celle d'Émilie, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Quand tu n'es pas sur une course, est-ce que tu as des passions, des hobbies?
C'est vrai que nous, on a de la chance d'habiter dans un beau territoire à Aix-les-Bains. Donc là, c'est vrai que j'ai été beaucoup absent depuis début janvier, mais en rentrant au mois de juin, il devrait faire beau. Et entre, j'espère, la préparation du tour, j'aurai le temps d'aller un petit peu me balader dans nos montagnes ou sur le lac, en bateau, en paddle. On a quelques activités nautiques avec les beaux jours qui devraient arriver.
Merci beaucoup Aurélien, merci à toi, merci à l'équipage G2R Citroën Team d'avoir été dans le bistrot vélo. On te souhaite la meilleure fin de Giro possible, on n'est même pas encore à la moitié, hein, mais une bonne deuxième semaine, une bonne troisième semaine, comme nous l'a dit Dadou, il en a encore sur la palette. Aurélien paraît peintre. Merci beaucoup Aurélien, merci à Mika, et puis bon, bah, je vous laisse aller dîner tranquillement, parce que vous, ça s'enchaîne après le bistrot vélo.
Merci
Merci,
beaucoup. Merci beaucoup
merci.
pour l'invitation et bonne deuxième semaine à tous alors.
Eh bien, c'est passé, le mot est passé à nos téléspectateurs et faites-nous rêver. Merci
Merci.
Aurélien, à très vite et puis on se retrouve nous, les amis, très rapidement, lundi prochain pour un nouveau numéro du Bistro Vélo. Salut!